chers auditeurs, auditrices. Une heure en Lycie chez Oprah Moas. La citation n'est que très légèrement modifiée par rapport à la phrase que l'on peut lire à la page 148 de Mémoire d'Adrien. Nous sommes au début du chapitre où l'empereur fait le récit de ses négociations en 123 avec le roi des Parthes, Osroès. On se souvient que c'est lors du voyage en Espagne, au printemps de cette année-là, qu'Adrien dut être informé d'un regain d'agitation sur la frontière orientale de l'Empire, interrompant, selon toute vraisemblance, sa tournée des provinces ibériques. Il embarqua sans doute à Tarragone, cingla vers la Syrie, sans même repasser par Rome et l'Italie. L'itinéraire de la traversée est certes malaisé à déterminer, on l'avait vu, mais on avait noté aussi que très probablement le navire impérial dut longer la côte africaine de Carthage à Alexandrie, puis vers Antioche. Telle est du moins l'opinion la plus répandue aujourd'hui. Mais autrefois, il n'était pas interdit de lui faire suivre une autre route, par l'île de Rhodes et la côte méridionale de l'Asie mineure jusqu'à l'embouchure de l'Oronte. Marguerite Yourcenar a profité en quelque sorte de ce flou pour faire débarquer Adrien dans un port au moins de la Lycie et avec une intention bien précise. Je m'arrêtais une heure en Lycie, écrit-elle, pour décider le marchand Oprah Moas, qui avait déjà prouvé ses qualités de négociateur, à m'accompagner en territoire parthe. Le manque de temps l'empêcha de déployer son luxe habituel. Cet homme, amolli par l'opulence, n'en était pas moins un admirable compagnon de route, accoutumé à tous les hasards du désert. Fin de la citation que vous avez dans votre dossier. De fait, Adrien était censé avoir réussi à le convaincre de faire à nouveau ce déplacement vers l'Euphrate. C'est qu'Oprah Moas, selon Yourcenar, n'en était pas à sa première intervention au service de l'Empire. Dès après l'arrivée de Trajan à Antioche, vers la fin de l'année 113 déjà, ce Lycien aurait fait partie de ces notables Anatoliens, Philoromaioi, qui informaient l'état-major romain des complications, voire des périls que pouvaient susciter les belliqueux projets de l'empereur en Orient. Tandis qu'Adrien prenait très au sérieux les avis de ses sages conseillers, les partisans de la guerre qui entouraient Trajan les auraient au contraire rejetés avec hauteur. Je cite « Les rapports secrets du marchand lycien Oprah Moas, qui connaissait bien les affaires de l'Asie, écrit encore l'auteur des mémoires, furent tournés en dérision par Palma, page 88. Je note au passage que cette phrase se trouve citée en épigraphe du livre récent sur l'inscription d'Oprah Moas, dû à l'historienne gréco-allemande Christina Kokinia, nouvelle preuve de l'estime dont jouit Marguerite Yourcenar auprès de mains savants étrangers. Mais revenons à notre affaire. On se souvient peut-être qu'Aulus Cornelius Palma, qui se glorifiait d'avoir annexé à l'Empire le royaume des Nabatéens de Pétra, était l'un des quatre sénateurs qui, au lendemain de la mort de Trajan en 117, furent sacrifiés par Adrien sur l'autel de la raison d'État. On n'est donc pas surpris de voir Oprah Moas ressurgir aux côtés du nouvel empereur à ce moment-là, car Adrien aurait aussitôt fait appel à lui pour négocier en sous-main la paix ou du moins un armistice avec les Parthes. Deux ou trois difficultés, lit-on en page 103, furent aplanies par le marchand Oprah Moas qui avait l'oreille des satrapes. Six ans plus tard, en 123, quand l'Orient se remet à bouger, c'est une fois de plus ce marchand et diplomate que l'empereur s'en va quérir en Lycie même. Oprah Moas est donc censé avoir été à ses côtés lors du fameux, autant que mystérieux d'ailleurs, colloquium de Syrie, l'entrevue historique avec le roi des Parthes sur l'Euphrate. Et il est même crédité d'un lourd sommeil ou sortir des festivités qui marquèrent la conclusion de la paix, façon pour Marguerite Yourcenar de suggérer que cet homme opulent avait quelque peu abusé des boissons et des mets. Il ne sera plus question d'opéra moas dans le reste de l'œuvre. Adrien ne fera pas appel à lui lors de la guerre juive, peut-être parce que cette guerre inexpiable ne laissait pas de place à la négociation. On aurait pu s'attendre, en revanche, car un tel épisode n'aurait pas été, on le verra, contraire aux données historiques, qu'une dernière rencontre entre les deux hommes fut évoquée à propos du voyage qu'Adrien fit en Lycie, en compagnie cette fois de l'impératrice Sabine, à une date qui divise encore les spécialistes, soit juste avant, soit juste après le tournant de 130. C'est qu'en réalité, dans les mémoires, il n'y a pas de véritable tournée des villes lyciennes. Ce pays lui-même semble avoir peu intéressé Yourcenar. Il faut dire à sa décharge que c'était, il y a un demi-siècle encore, une région fort mal connue, alors qu'elle est aujourd'hui l'objet de recherches internationales très actives, comme l'illustre, pour la Lycie romaine justement, la publication récente de l'inscription dite « Stadiasm de Patarin », avec les itinéraires des routes entre les villes de la province. L'auteur des mémoires a été fasciné par un lycien en particulier, cet opéra moas, dont elle a fait le parangon de l'oriental en le présentant sous un jour favorable, puisqu'elle le montre au service d'Adrien pour asseoir la paix du monde sur des bases durables. Reste que le véritable opéra moas dut avoir une existence assez différente de celle d'un diplomate, car il est connu essentiellement dans les annales épigraphiques pour avoir été un bienfaiteur d'une très grande générosité à l'égard de sa patrie lycienne. Que l'on ait affaire à un personnage historique, quoique ignoré par les sources littéraires, Marguerite Yourcenar a tenu à le dire dans la longue, sur plusieurs pages, note où elle a signalé les libertés qu'elle avait prises avec la documentation disponible. Opéra moas est un personnage réel, écrit-elle, mais rien ne prouve qu'il ait accompagné Adrien sur l'Euphrate. Voilà qui est parfaitement clair. Mais que savait-elle au juste de lui? Et par quelle voie était-elle parvenue à exhumer, pour en faire un proche d'Adrien, ce lycien enfoui sous les pierres de son mausolée en ruine? Cela conduit nécessairement à dire quelques mots des historiens qui ont porté et portent leur regard sur opéra moas. Ceux d'abord dont les travaux ont pu éventuellement inspirer l'auteur des mémoires, ceux ensuite et surtout qui ont repris plus récemment l'examen du dossier, en tirant parti aussi de nouveaux documents. La source fondamentale de nos connaissances sur ce personnage est l'ouvrage de Rudolf Eberdeim, intitulé précisément « Opéra moas, Inschriften von Heroen zu Rhodiapolis », publié à Vienne en 1897. C'est la ville de la Lycie orientale dont la fondation par les Rhodiens est peut-être de l'ordre du mythe plus que de la véritable histoire, encore que l'influence et la domination rhodienne en Lycie soient des réalités incontestables, surtout à la basse époque hellénistique. Rhodiapolis fut en tout cas une cité assez florissante sous l'Empire. Rappelons qu'était originaire de cette ville, au témoignage d'une inscription honorifique tout récemment publié, un médecin du nom de Hermogenès, en qui nous avons proposé de reconnaître, on s'en souvient peut-être, l'archiatros qui soigna Adrien en ses dernières années, puisqu'il s'appelait Hermogène. Le site archéologique de Rhodiapolis avait été repéré par des voyageurs britanniques dès le milieu du 19e siècle, mais ce sont des savants autrichiens qui, à partir des années 1880, commencèrent à en recueillir les inscriptions. Ainsi notamment Heberdey, qui fut le premier à étudier systématiquement un ensemble de pierres inscrites se rapportant toutes à un seul personnage nommé Opramoas. De fait, ces blocs gisant sur le sol se trouvaient être les vestiges d'un somptueux mausolée en forme de temple, édifice dont les murs, trois murs en tout cas sur quatre, avaient servi à la gravure d'une longue suite de décrets et de lettres rendant pour la plupart hommage, et de son vivant encore, à l'illustre citoyen de Rhodiapolis. C'est ainsi que cet Erwan d'Opramoas, comme on le nomme volontiers, est entré à la fois dans l'histoire de l'architecture gréco-romaine et dans l'histoire tout court. La figure de ce lycien devenant, pour ainsi dire, le modèle des évergètes ou bienfaiteurs de l'époque impériale. Il est cependant assez douteux que Marguerite Yourcenar, qui certes maîtrisait assez bien l'allemand, ait eu accès à l'ouvrage technique et peu répandu de Eberdeil. On notera au surplus qu'elle n'indique nulle part qu'Opramoas était de Rhodiapolis, chose tout de même relativement importante dans le cas d'un personnage que l'empereur était censé avoir revu en l'an 123 à l'occasion d'une escale des plus brèves, puisqu'elle n'aurait duré qu'une heure, façon de parler, bien sûr, qui pourrait de la part de l'auteur être comme un clin d'œil à l'intention des historiens pour leur signifier que de cette escale, ils perdraient leur temps à vouloir chercher la trace écrite. Une journée entière, en fait, aurait été nécessaire pour rencontrer un homme dont le domicile se trouvait à une quinzaine de kilomètres du port le plus proche, celui de Limyra. Si Marguerite Yourcenar avait eu entre les mains l'étude de l'archéologue autrichien, elle aurait sans doute pris conscience du caractère un peu léger de sa mise en scène. L'ouvrage où elle a puisé son information sur Opramoas serait-il tout simplement le recueil des Tituli Asiae Minoris, tome 2, fascicule 3, où un autre épigraphiste autrichien, Ernst Kalinka, proche collaborateur du reste de Eberdeil, avait donné en 1944 le corpus des inscriptions de la Lycie centrale et orientale, avec une section consacrée justement à Rhodiapolis. Cette belle publication est certes demeurée jusqu'à une date très récente la référence fondamentale pour les documents gravés sur l'Erwan, dont une reconstitution graphique pratiquement définitive a été proposée en plusieurs dessins très soignés, avec aussi un tableau sur lequel on reviendra, montrant comment devait s'ordonner dans le temps la longue suite des fonctions assumées par cette Opramoas. C'est cela sur la base des mentions d'empereurs, de gouverneurs de province, de grands prêtres du culte impérial. Mais il est permis de douter fortement que ce corpus infolio paru à la fin de la guerre ait été connu de Marguerite Yourcenar quand, à partir de 1949, aux États-Unis, elle reprit son travail d'écriture. Il aurait fallu, à tout le moins, qu'elle eût trouvé dans quelques d'une de ses lectures, un renvoi au recueil de Kalinka. Or, la chose est bien improbable. En effet, parmi les livres sur Adrien, qu'elle consultait systématiquement, le seul qui mentionna Opramoas était, une fois de plus, celui de Wilhelm Weber. Mais cet ouvrage, publié en 1907 déjà, ne pouvait évidemment renvoyer qu'à Eberdeil et non pas à Kalinka. L'auteur des mémoires y trouvait toutefois, pour son propos, une chose bien importante, quoique on va le voir assez trompeuse. L'indication, en page 225, que « Ein Besuch in Rhodiapolis ist aus dem Brief des Stadthalters Caelius Florus bekannt », autrement dit, qu'une visite d'Adrien, non seulement en Lycie, mais très précisément à Rhodiapolis, se trouvait attesté par un document de l'Erwan d'Opramoas, publié dès 1897, ou 87 même, puis réédité, entre-temps, non seulement par Eberdeil, mais aussi dans le recueil plus commodement accessible, sinon toujours recommandable, des Inscriptiones Graecae adres Romanas pertinentes, tome 3, 1906, sous le numéro 739. Au surplus, Weber lui-même reproduisait en pleine page le texte de cette lettre émanant en réalité d'un procurateur, pas un gouverneur, un procurateur de la Lycie Pamphylie. On peut en traduire le début de la manière suivante, vous avez ce texte dans votre dossier. Caelius Florus, au très honoré Opramoas, fils d'Apollonios, salut. À titre public également, j'ai mandé par écrit à votre cité de prendre les mesures les plus indispensables en vue du très heureux retour Epanodos de notre maître, l'empereur. Fin de la citation. Il y avait certes eu débat parmi les éditeurs sur la question de savoir si Epanodos signifiait ici retour ou, ce qui n'est pas la même chose, nouvelle arrivée, traduction qui impliquait l'existence d'un premier passage de l'empereur à Rhodiapolis. Mais Weber tranchait avec décision pour l'interprétation de Eberdei, à savoir qu'il était bien question ici d'un second voyage, zweite Besuch, à mettre en relation avec d'autres documents attestant la présence d'Adrien dans cette partie de la Lycie en 131, tandis que le premier, ce premier voyage aurait eu lieu en 129. Marguerite Yourcenar n'avait bien entendu aucune raison de remettre en question l'opinion de son cher mentor Weber. Voilà qui explique peut-être qu'elle se soit sentie autorisée à supposer qu'une première entrevue entre Adrien et Opramoas avait pu avoir lieu encore avant 129, dès 123, l'année de la paix avec Osroès. Si l'on admet avec moi que cette page de Weber a été sa seule source d'information sur la venue d'Adrien en Lycie, on comprendra mieux aussi qu'elle n'ait eu visiblement aucune idée de l'endroit où se trouvait Rhodiapolis, ville dont elle a du reste préféré taire le nom, car le fait est que Weber non seulement ne disait rien de la position de cette cité, mais ne fournissait pas la moindre carte. Pourtant, un élément nous manque encore. Où donc l'auteur des mémoires a-t-il ou a-t-elle trouvé qu'Opramoas était riche, très riche, d'où le portrait qu'elle donne en la vue d'un marchand amolli par le luxe. Cela ne figure pas et n'avait pas à figurer dans la sobre étude de Weber qui ne se souciait guère que de fixer la chronologie et l'itinéraire des déplacements de l'empereur. C'est donc nécessairement ailleurs que Yourcenar a puisé de quoi nourrir son évocation de cette Epramoas dont elle a fait un levantin quelque peu indolent, mais dévoué, généreux et bon connaisseur des choses de l'Orient. Ce caractère oriental, elle l'a induit d'abord, selon toute apparence, du nom même du personnage, Opramoas. Ce n'est à coup sûr pas un anthroponyme hellénique, même s'il est habillé à la grecque. Il s'agit d'un nom rare, confiné tout à fait à l'Asie mineure et même bien plus précisément à la côte sud de la péninsule. On sait que l'onomastique lycienne, telle qu'on la connaît aujourd'hui à travers de très très nombreuses inscriptions, comporte, et à l'époque impériale encore, bien des noms d'origine indigène. Or, grâce au tout récent tome 5B du Lexicon of Greek Personal Names, sorti de presse l'hiver dernier, il est désormais aisé de constater, puisque ce volume porte précisément sur la Carie et la Lycie, qu'il n'y a guère plus d'une douzaine de porteurs de cet anthroponyme dans tout le matériel actuellement disponible pour ces deux régions. Et ce qui paraît plus intéressant encore, c'est de relever que le nom Opramoas est absent dans les cités de la Lycie occidentale et a fortiori dans la Carie voisine, y compris à Kaunos, dans cette ville des confins carolyciens, dont notre hôte d'aujourd'hui, le professeur Christian Marek, est sans doute le meilleur connaisseur. Ce que le nouveau répertoire met également en lumière, c'est la présence de variantes du nom en Cilicie trachée, pays immédiatement voisin à l'est, sinon limitrophe de la Lycie. Notre Opramoas est donc bel et bien, si l'on veut, un oriental. Mais cela n'autorise pas encore à faire de lui un homme qui aurait pratiqué les langues et les usages de l'Orient et qui aurait voyagé en direction de la Syrie. Aucune inscription à ma connaissance ne fait mention de lui en dehors des frontières de la Lycie-Pamphylie. Mais refermons cette parenthèse, si c'en est une, pour revenir à la question des sources du portrait d'Opramoas tel que l'a esquissé Marguerite Yourcenar. Deux ouvrages classiques en langue anglaise pouvaient lui donner une idée du niveau social du personnage en même temps qu'un aperçu de ses ressources financières. C'est la contribution de Thomas Broughton au tome 4 de An Economic Survey of the Roman Empire, édité par Tiney Frank en 1938, avec un utile tableau déjà, on le voit, des libéralités faites par Opramoas, ses compatriotes rhodiapolitains et plus généralement lyciens. C'est aussi, bien sûr, l'ouvrage de Mikhail Rostovtsev, The Social and Economic History of the Roman Empire, dont la première édition remonte à 1926. Or, si Yourcenar n'a sans doute guère pratiqué l'Economic Survey des historiens américains, elle fait dans sa bibliographie un éloge appuyé du grand livre de Rostovtsev. De fait, toutes sortes d'indices sur lesquels je passe ici ne permettent pas de douter que c'est à l'historien russe qu'elle a emprunté sa vision d'un opraomas millionnaire, sinon milliardaire, donc vivant dans le luxe et susceptible de se laisser avachir par une vie trop facile. Avant de poursuivre notre enquête sur ce personnage hors norme à travers l'historiographie contemporaine, il importe de revenir au corpus de Rhodiapolis publié par Kalinka, on s'en souvient, en 1944, puisque ce fascicule des Tituli Asiae Minoris, ignoré très certainement de Yourcenar, a servi de base pour toutes les études postérieures sur Opramoas. Le livre comporte un très précieux tableau chronologique en quatre colonnes où l'éditeur a diligemment classé les inscriptions du mausolée, indiquant à gauche les dates probables, donnant au milieu d'abord les noms des grands prêtres du culte impérial de la Confédération lycienne, puis ceux des proconsuls, procurateurs de la province de Lycie, des proprétors, excusez-moi, et procurateurs de la province de Lycie, Pamphylie, et enfin les références à des numéros qui désignent des groupes de documents appartenant à un même ensemble chronologique. Or, que voit-on dans le haut du tableau, c'est-à-dire pour le début de la carrière d'Opramoas? On y trouve, bien entendu, un renvoi à la fameuse lettre du procurateur Caelius Florus, citée il y a un instant d'après la mention qu'en faisait Weber. Mais cette lettre s'avère n'avoir aucun rapport avec le voyage d'Adrien en Lycie en 131. Elle est placée en effet en 117 dans un tout autre contexte, sous le gouvernement provincial du légat propréteur Gaius Trebius Maximus, qui atteindra le consulat en 122. Dès lors, l'épanodos, la fameuse épanodos, le voyage de retour, sens usuel du terme, et non pas le second voyage, qu'annonçait la lettre du fonctionnaire romain à Opramoas en particulier, n'était pas celui d'Adrien, mais celui de Trajan, revenant du front oriental par la côte méridionale de l'Asie mineure, malade et bientôt moribond, obligé, on l'avait vu, de s'arrêter pour toujours dans le port de Sélinonte en Cilicie, ne parvenant ainsi jamais à Rhodiapolis, ni non plus en quelque autre lieu de la Lycie. En fait, cette révision drastique de la datation des éléments les plus anciens du monument d'Opramoas avait été réalisée dès 1920 par un excellent connaisseur des institutions impériales, Ritterling, dont les conclusions ont été depuis adoptées par tout le monde, à commencer par Kalinka, dans son édition de 1944. Autrement dit, dès avant la publication des mémoires en 1950, il n'y avait plus aucune raison de penser qu'Adrien ait jamais fait la moindre escale dans un port lycien en l'an 123. La rencontre entre l'empereur et Opramoas à cette date était par conséquent plus qu'aléatoire, sans même parler de la collaboration du riche lycien aux négociations d'Adrien avec le roi des Parthes au lendemain de la mort de Trajan. Donc, le château de Carthes, construit ici par Marguerite Yourcenar, s'effondre, hélas, sous nos yeux. Il n'en reste pas moins certain qu'Opramoas a été proche du pouvoir impérial sous les premiers Antonins. Né ou plutôt vers 90, il commence sa carrière à la fin du principat de Trajan en occupant, dès l'âge de 25 ans environ, une magistrature réservée aux jeunes lyciens des meilleures familles. En 114, il est archifulaxe, c'est-à-dire contrôleur en chef de la levée de l'impôt dû aux Romains, et c'est peut-être encore à ce titre qu'en 117, il reçoit la lettre citée plus haut du procurateur Caelius Florus, lui demandant de préparer le retour attendu de l'empereur depuis le front d'Orient. Le détail des magistratures assumées par Opramoas sous Adrien n'est pas connu, en dehors, si je vois bien, d'un passage par les fonctions de stratège et d'hyparque, mais sa générosité lui vaut d'être honoré pratiquement chaque année par les instances fédérales et par maintes cités. À l'extrême fin du règne d'Adrien, en 136, très certainement, on le voit accéder aux magistratures suprêmes du cursus lycien, celle de grand prêtre du culte impérial dans la province, et secrétaire du koinon de la Confédération, qui lui vaudront du même coup le privilège de porter à vie le titre de Lukiarchès, président, si l'on veut, de la Lycie, une fonction remontant à l'époque du koinon lycien hellénistique, mais qui avait disparu, semble-t-il, après la réduction du pays en province romaine en 43 de notre ère. Ce n'est guère avant le principat d'Adrien que le titre et la fonction de lycéarque réapparaissent, de même que surgissent dans d'autres provinces de l'Asie mineure des titres équivalents, sans parler de celui d'Eladarque en Achaïe, comme on l'avait vu. On notera du reste qu'à la lumière de la toute récente étude de Denise Reitzenstein sur les prêtres du koinon lycien, dit Lukischen Bundespriester, c'est dans la longue inscription de Rhodiapolis précisément que le titre réapparaît pour la première fois vers 115 en s'appliquant aux glorieux ancêtres du grand bienfaiteur. Mais c'est sous Antonin seulement. Donc à partir de 138, qu'Opramoas est à l'apogée de sa notoriété. Le monument de Rhodiapolis a livré pas moins de 12 lettres de cet empereur, alors qu'il n'y en a aucune d'Adrien lui-même. Il est vrai que la période de passage d'un règne à l'autre paraît avoir été un peu difficile pour les autorités lyciennes, puisque le gouverneur de 137, Cornelius Proculus, éleva des objections de nature sans doute pas exclusivement formelle, contre une nouvelle série de distinctions votées par le koinon en l'honneur d'Opramoas au lendemain de son accession à la lyciarchie. Mais une procédure d'appel, épiclésis, des gens de Xanthos, la grande cité de la Lycie occidentale, auprès de l'empereur, provoqua plusieurs interventions du nouveau prince en sa faveur, comme en témoigne justement le mausolée de Rhodiapolis. Les mérites de l'évergète lycien étaient donc connus, reconnus à Rome même, et ils furent rendus plus éclatants encore par l'engagement d'Opramoas dans les travaux de restauration que nécessita dans pratiquement toutes les villes de Lycie le terrible tremblement de terre de l'an 141, et cela en concertation, pour ainsi dire, avec l'empereur Antonin, dont l'intervention ressort pour l'Asie mineure en général, des sources littéraires, Pausanias, Dion Cassius, l'Histoire Auguste, etc. C'est alors seulement qu'Opramoas se mit à dépenser pour les collectivités publiques lyciennes les sommes considérables, des dizaines de milliers de deniers à chaque fois, dont les inscriptions ont conservé le souvenir. S'il faut donc renoncer, malgré qu'on en ait, à l'image yourcenarienne de l'oriental ayant l'oreille des satrapes parthes et parcourant les déserts ou les pistes du désert syrien, Oprah-Moas garde plus que jamais sa place dans une histoire globale des Antonins. Il n'est nullement exclu, au surplus, que l'illustre citoyen de Rhodiapolis ait rencontré Adrien lors du voyage de l'empereur et de l'impératrice en Lycie, car un notable tel que lui était précisément le genre de personne qui, dans chaque cité ou province de l'Empire, venait saluer le prince à son arrivée aux frontières en assumant seul ou avec d'autres les frais de la podoké, de la réception. On en a déjà relevé plusieurs exemples, chemin faisant, que ce soit dans la lointaine Barcino d'Hispanie, Citérieure, ou à Ancyre de Galatie, ou encore à Épidaure, à Trézène, à Sparte, et à Mécène, dans la province d'Achaïe. Et d'autres cas se présenteront encore dans l'Ionie, en Syrie ou ailleurs. Du reste, pour Oprah-Moas, cela n'est déjà plus entièrement du domaine de l'hypothèse, car en 1993, un nouveau cycle inscrit, que vous avez sous les yeux et dans votre dossier, qui a été mis au jour à Rhodiapolis même par des fouilleurs clandestins, a révélé que le bienfaiteur lycien avait pris soin de faire élever par sa cité une statue à Adrien et à Sabine. Induite en erreur sur la chronologie, Marguerite Yourcenar n'a finalement pas eu tort, je crois, de vouloir ménager aux deux hommes une occasion au moins de se rencontrer sur les routes de l'Orient. Depuis un demi-siècle, l'évocation des libéralités de l'évergète lycien est devenue comme un passage obligé dans les travaux sur l'Asie mineure, pour l'époque impériale en tout cas, et même plus généralement dans les ouvrages de synthèse consacrés à cette période. On ne s'arrêtera pas spécialement sur les pages bien informées, quoique aujourd'hui un peu vieillies forcément, elles aussi, que réservées à Oprah-Moas en 1950, l'année même de la parution des mémoires, l'historien américain David Meiji, Roman Rule in Asia Minor, un peu plus tard, en 1961, dans sa contribution à l'histoire et ses méthodes de l'encyclopédie de la Pléiade, texte souvent reproduit depuis lors, Louis Robert faisait du dossier de Rhodiapolis, ses blocs, disait-il, d'un monument funéraire couvert d'inscriptions, un exemple particulièrement significatif de ce que l'épigraphie grecque pouvait apporter à l'étude de la vie sociale et économique de l'Empire romain. Le maître devait d'ailleurs revenir plus tard, en 1978, sur les libéralités d'Oprah-Moas à propos du grand séisme de sous Antonin en 141. Mais c'est sans doute Paul Veyne, dans son assez célèbre essai de 1976 sur le pain et le cirque, qui a le plus contribué en France, et bien au-delà, à faire connaître le personnage à un large public, en accordant d'une certaine manière la palme de l'évergétisme au bienfaiteur de la Lycie. Plutôt en effet que de reprendre l'exemple un peu éculé du célèbre milliardaire athénien Hérode Atticus, connu depuis toujours par les sources littéraires et aussi, il est vrai, par quelques grandes inscriptions. C'est à travers le cas d'Oprah-Moas que notre très distingué collègue a choisi d'illustrer ce phénomène caractéristique de l'époque antonine, qui est la prise en charge d'une partie importante, sinon de la totalité des dépenses publiques, par un seul et même personnage jouissant d'immenses ressources. En une formule souvent citée depuis, il a mis Oprah-Moas au nombre des virtuoses de l'évergétisme. Je crois utile de signaler que c'est à la page 295, puisque l'ouvrage en compte près de 800 et que l'index seule partie du livre qui puisse être tenue pour un peu maigre, n'enregistre pas ce nom. Ce qui distinguerait Opramoas de tous ses prédécesseurs et émules en Lycie, ce serait non seulement l'importance de ses biens, mais une espèce de vocation à la philanthropie. Loin d'obéir seulement à la pression sociale qui était sûrement forte dans sa cité, comme dans le reste de la Confédération, le citoyen de Rhodiapolis aurait été animé par un idéal d'ordre religieux ou moral, alors que ses éventuels concurrents n'étaient que des amateurs, tout au plus de simples dévots. Car dans la pratique, conclut l'auteur, seule une poignée de virtuoses ont la vocation de consacrer leur vie à la perfection. Opramoas fut de cela. Fin de la citation. On est donc assez loin du marchand amolli par l'opulence de Marguerite Yourcenar, que Paul Veyne, ne mentionne pas et n'avait sans doute pas non plus à alléguer, attendu que Mémoire d'Adrien n'est pas le livre d'un historien, mais l'expression poétique d'une érudition mise au service de la connaissance intuitive d'un grand personnage historique. Il ne s'agit pas, bien entendu, de trancher entre ces deux visions, qui du reste ne s'opposent pas en tout point, puisqu'en fin de compte, Opramoas apparaît chez l'un et chez l'autre comme une figure plutôt aimable, sympathique, et plus sympathique en tout cas que nos modernes sponsors, dont les mobiles n'ont pas grand-chose à voir le plus souvent avec la philanthropie. Non, ce qui m'importe ici, c'est de montrer, ou peut-être seulement de rappeler, que depuis les années 80 du siècle dernier, la perception que les historiens ont du rôle joué par Opramoas ne cesse d'évoluer, à la fois parce que le dossier épigraphique relatif à l'action du personnage s'est étoffé encore de quelques pièces et ne cessera sans doute de s'enrichir. Une inscription encore inédite, si je vois bien, est apparue ainsi dans la petite ville de Gagai, entre Rhodiapolis et Phaselif, encore pour Opramoas. Et par ça aussi, parce qu'un autre grand bienfaiteur, au moins, s'est signalé à l'attention au sein même de cette confédération lycienne de la période antonine. En effet, pour ce qui est du premier point, on sait qu'au nombre des inscriptions découvertes au sanctuaire de Leto, près de Xanthos, par les archéologues français, se trouvent bien des documents d'époque impériale dont la publication a été assurée avec une diligence et un soin exemplaire dans le tome 7, paru en 1981, des fouilles de Xanthos, dirigé alors par notre camarade d'Athènes, ami et ami Christian Leroy. L'auteur de la publication elle-même, le professeur André Ballan, y a fait connaître deux inscriptions qui enrichissent de manière très notable, mais non sans susciter également quelques perplexités, la documentation fournie jusque-là par le mausolée de Rhodiapolis. Le premier de ces documents émane du koinon Lukion to koinon, vous l'avez dans votre dossier, donc de l'ensemble des villes lyciennes qui honorent Opramoas d'une statue pour avoir témoigné sa générosité non seulement par une foule de libéralité à chacune des cités en particulier, Idiae et Castei Pleista, mais aussi et surtout, puisque c'est cela qui justifie la récompense octroyée ici aux bienfaiteurs, pour avoir offert à la communauté lycienne tout entière, à l'ethnos, des terres ayant un rendement annuel de 2 myriades, donc de 20 000 deniers, argent grâce auquel chacun des membres du conseil commun pourra toucher 10 deniers, ce qui paraît impliquer, notons-le au passage, que cet ample boulet fédéral comptait 2000 koinobouloi. Une information qui n'a pas manqué d'être exploitée par les historiens des institutions lycéennes, ainsi Ralph Berwald, dans une bonne dissertation allemande publiée en 2000, est intéressante aussi au point de vue chronologique, puisqu'elle a amené l'éditeur à dater la nouvelle inscription postérieurement à 152, pour la raison que cette largesse faite en faveur des koinobouloi de toute la Lycie n'est l'objet d'aucun décret, et ni même mention, sur le mausolée de Rhodiapolis. Or, il faut relever qu'une telle induction, peut-être un peu fragile dans la mesure où elle ne repose somme toute que sur un argument ex silentio, comme on dit, n'est pas sans conséquence pour la biographie d'Opramoas, car c'est évidemment une conclusion toute différente que l'on avait tirée jusque-là de ce silence des inscriptions de Rhodiapolis, à savoir tout simplement que le bienfaiteur était décédé peu après 152. Âgé alors sans doute d'une bonne soixantaine d'années, notre virtuose de l'évergétisme aurait ainsi voulu, avant de disparaître, peut-être vers 155, laisser le souvenir d'un bienfaiteur décidément inégalable, peut-être parce qu'il n'avait plus de proches héritiers, plus d'enfants en tout cas, à qui laisser ses biens. Ce qui est sûr, c'est que l'inscription se place nécessairement dans la dernière partie de la carrière d'Opramoas, celle qui se place après le tournant de 136, car les deux hautes fonctions fédérales auxquelles il accéda alors sont dûment relevées dans notre texte. Dans le même sens, du reste, parle aussi le fait que le bienfaiteur soit caractérisé non seulement comme citoyen de Rhodiapolis, Rhodiapolites, mais aussi de 6 autres grandes villes lyciennes, à savoir Myra, Patara, Klos, Xanthos, Telmessos et Limyra, puisque aucune des inscriptions antérieurement connues ne fournissait une aussi ample liste d'ethniques. À Phaselis, par exemple, dans un document récemment recomposé et datable du début du principat d'Antonin, en 146, Opramoas ne porte encore que 3 ethniques, Rhodiapolis, Myra et Phaselis. De cette acquisition progressive d'une authentique multicitoyenneté, il convient de distinguer soigneusement la mention qui est faite dans cette inscription, comme en beaucoup d'autres à Rhodiapolis même, de la capacité d'Opramoas à exercer des droits, sinon des fonctions politiques, politeiestai, dans toutes les cités de la Lycie, dont le nombre était bien plus élevé. Je n'entre pas ici dans la discussion fort nourrie que cette formule a suscité, me contentant de renvoyer à l'ouvrage collectif « Patrie d'origine et patrie élective », où l'on trouvera notamment là-dessus une étude à jour de Christina Kokinia, l'épigraphiste grec d'expression allemande déjà mentionnée, qui a donné en 2000 une nouvelle édition du monument inscrit de Rhodiapolis, dont elle a amélioré, ou du moins assuré, le texte en lisant sur le papier main raccord, comme on le voit, c'est un spécimen, avec des fragments jusque-là non exploités. Il me paraît utile, en revanche, de revenir un instant sur une probable réalité institutionnelle sous-jacente à la liste de la demi-douzaine de villes dont Opramoas, à l'époque de l'inscription de Xanthos, pouvait se flatter d'être citoyen de plein droit. Car, comme l'a vu d'emblée l'éditeur, c'est le reflet d'une continuité remarquable, en dépit de toutes les vicissitudes liées à la mainmise romaine, entre les institutions du koinon hellénistique et celles de l'époque antonine, puisque Strabon, dans sa description de cet État fédéral, dans sa description de cet État fédéral, au livre 14 de sa géographie, relevait l'existence au sein d'un système distinguant trois catégories de cités, les plus modestes, pardon, selon leur taille, d'une demi-douzaine de villes, justement, qui disposaient chacune du triple des suffrages accordés aux cités lyciennes les plus modestes. Or, les noms de ces six mégistai poleis de la première époque du Koinon nous ont été livrés par le géographe, renvoyant expressément sur ce point à son garant, l'excellent Artémidore d'Éphèse, qui vivait environ un siècle plus tôt, aux environs de 100 avant Jésus-Christ. Il s'agit de Xanthos, Patara, Pinara, Olympos, Myra et Klos. Cette liste canonique, on peut dire, avait trouvé un premier écho épigraphique dans un document de Stratonicée de Carie, datant des alentours de 80 avant Jésus-Christ, où le nom de Limyra avait remplacé celui d'Olympos, ville anéantie peu auparavant. La liste fournie deux siècles plus tard par le document de Xanthos indique une autre substitution à l'échelle régionale, elle aussi conditionnée, quoique de façon moins brutale, par un déplacement de population. Telmessos, ville côtière depuis longtemps prospère, venant se substituer assez naturellement à la proche cité de Pinara à l'intérieur des terres. Cette confirmation du nombre 6 est d'autant plus précieuse que les institutions fédérales lyciennes ont retenu l'attention de bien des historiens et politologues modernes, et cela dans le sillage de Montesquieu, l'auteur de L'Esprit des Lois, ayant choisi, plusieurs d'entre vous s'en souviennent sans doute, de prendre cette confédération gréco-anatolienne comme un modèle, écrit-il, d'une belle république fédérative. Pourquoi et dans quelles conditions, c'est ce que j'avais tenté de montrer ici même en 2009, sujet que j'ai repris depuis dans un article du journal des Savants. On constate ainsi qu'un document est parmi les plus récemment apparus du dossier d'Opramoas peut venir nourrir la réflexion sur un État fédéral dont la renommée a été telle au XVIIIe siècle qu'il fut jugé digne d'une notice assez développée dans l'Encyclopédie de D'Alembert et qu'il inspira des velléités d'imitation au père fondateur des États-Unis d'Amérique. Mais redescendons de ces auteurs pour examiner encore, si vous le voulez bien, le second des documents exhumés dans les fouilles de Xanthos. On a affaire ici à une stèle, non pas à un socle de statue. La première ligne annonce une série de libéralités, doreas edoken. Et l'énumération se développe ensuite sur plus de 40 lignes. Mais il manque le sujet du verbe, très certainement parce que la stèle était accolée au piédestal d'une statue offerte à ce bienfaiteur. Il est clair que la notoriété de l'Évergète risque de souffrir fâcheusement d'une pareille malchance. Le danger est grand que cette gloire demeure anonyme tant que la pièce manquante n'aura pas été retrouvée. En l'occurrence, le doute ne semble heureusement pas permis, du moins à première et même à seconde vue. Pour l'éditeur, en effet, ce bienfaiteur inconnu ne saurait être que le grand Opramoas en personne. Un autre lycien vers la fin du principat d'Antonin aurait-il pu avoir les moyens d'une telle profusion de distribution d'argent et de blé, de dianomai, de cytométriai, de subventions à tant de constructions diverses, à tant de grandes cités, des places publiques, des agorae, des établissements de bains, l'outra, des portiques, stoae, des gymnases avec leurs palestres, gymnasia, etc. Car le total des sommes dépensées ici est plus élevé, environ 1 200 000 deniers, 4 millions de sesterces, que le montant total des libéralités enregistrées tout au long de l'inscription du mausolée de Rhodiabolis. Comme le note très justement André Ballan, on peut parler d'un saut quantitatif, d'où la question de savoir si Opramoas, tout en étant assurément un grand propriétaire terrien, comme l'assurent ses dons en bien fonds, n'aurait pas également exercé des activités dans la banque et dans le négoce. On se rapprocherait ainsi du marchand Opramoas qu'imaginait assez audacieusement pour l'époque Marguerite Yourcenar. Mais c'est surtout le saut qualitatif qu'avec l'éditeur encore, il conviendrait de marquer les deux phases de la carrière évergétique du Rhodiapolitain. Car l'inscription de Xanthos fait voir le personnage sous un jour nouveau. L'homme n'est plus seulement un constructeur. Il se serait mué en philanthrope, soucié de nourrir et d'éduquer, trefein kai paideien, tous les enfants, en s'occupant en priorité des citoyens pauvres, tous phénoménous, par quoi il faut entendre, bien sûr, ce que l'absence d'un patrimoine oblige, hélas, à travailler. Et très concrètement, il prend à sa charge la dot des filles un peu démunies, les pénicrai parthenoi, mais la libéralité sans doute la plus originale de ce bienfaiteur hors pair est d'assumer auprès des familles nécessiteuses les obsèques des trépassés. Toke deuticon tois biosassin. Opramoas aurait décidément fait preuve dans ses vieux jours d'une virtuosité évergétique au suprême degré. Il n'y a rien, certes, à ajouter aux commentaires extrêmement savants d'André Ballan. Mais le problème que pose l'identité même du bienfaiteur Honoré à Xanthos a peut-être été trop rapidement considéré comme résolu. Si l'opinion de ce savant a d'emblée convaincu les lecteurs les plus exigeants, elle a suscité dès 1987 d'intéressantes objections de la part de l'archéologue anglais Coulton. Ce spécialiste de l'architecture grecque a fait valoir notamment qu'à Patara, le portique du port rendu double par le bienfaiteur anonyme Stoa up autou Gegoneia Diplé ne pouvait pas être identifié, comme l'admet Ballan, au portique double que dans cette capitale de la Lycie, Opramoas s'était précédemment engagé à construire selon donc, le mausolée de Rhodiapolis. L'objection, qui n'est peut-être pas dirimante, a été repoussée, par exemple, par Coquigna. Il existe toutefois d'autres écarts dans le reste du programme édilitaire qui peuvent faire difficulté. On constate du reste que Maurice Sartre, en analysant l'inscription sous forme de tableau dans son manuel sur l'Asie mineure, attribue cette inscription à la suite de Coulton à un évergète anonyme. C'est le cas aussi tout récemment de Denise Reitzenstein, dans l'ouvrage déjà cité, alors que d'autres excellents connaisseurs se sont rangés à l'avis de Ballan. Ce qui gêne le plus dans l'attribution à Opramoas, c'est d'abord que Rhodiapolis est d'une manière générale les villes de la Lycie orientale ne figurent pas au nombre des cités que ce bienfaiteur aurait aidé dans l'ultime phase de sa carrière. Il y a comme deux zones d'action qui ne se recoupent que partiellement, ainsi que les cartes de Coulton le mettent assez bien en évidence. Il est d'autre part toujours permis de s'étonner, même après les explications tentées pour rendre compte de ce silence, que le mausolée de Rhodiapolis, mémorial par excellence, n'ait pas gardé le moindre souvenir de ces grands évergetemata. Enfin, on se défend avec peine contre l'impression que, du fait de sa renommée, le nom d'Opramoas s'est peut-être imposé trop vite à l'esprit de l'éditeur. On aurait souhaité que fut instruite aussi la cause d'autres évergettes possibles. Coulton a évoqué le cas intéressant de Jason de Kuanéaï, contemporain en gros de Pramoas, mais sans prétendre qu'il soit l'auteur des libéralités de la stèle de Xanthos. Il est curieux que l'on ait fait nulle mention dans ce débat de Tiberius Claudius Agrippinus, lycien jouissant de la citoyenneté romaine, mais intégré également au corps civique de Patara, de Xanthos et de Myra, honoré plusieurs fois de fête dans la capitale de la Lycie, mais connu à Xanthos même, par une inscription qui montre qu'il était lui aussi passé par la grande prêtrise du culte impérial, par le poste de secrétaire du Koinon, et que pour ses libéralités, il avait été récompensé tant par la Confédération que par la cité de Xanthos. La cause de ce grand personnage n'aurait-elle pas mérité d'être plaidée, puisque c'est le socle de sa statue qui jadis, pas récemment, qui jadis semble avoir été trouvée dans le voisinage le plus proche de l'endroit où devait surgir plus tard la stèle de l'anonyme. On ne peut manquer non plus d'être frappé par le fait que ce notable était apparenté de près, comme le note Ballan, à un sénateur homonyme originaire également de Patara, la ville la plus choyée par le bienfaiteur anonyme, car à cette famille appartenait justement une femme, Claudia Helene, qui figure de la vie générale à la ligne 7 de la stèle de Xanthos, sous la forme Hyper Hélénès, au nom d'Hélène, dame de haut rang, apparentée certes de loin à Opramoas, mais de bien plus près à ce Claudius Agrippinus. Bref, la question paraît encore loin d'être tranchée en faveur de notre Opramoas. Le grand philanthrope de la stèle de Xanthos, celui à qui s'applique le mieux l'appellation de virtuose de l'évergétisme forgé par Paul Venn, doit demeurer, jusqu'à plus ample informé, un soldat inconnu sous l'arc de triomphe des évergètes lyciens. Il faut bien voir, en tout cas, que l'homme de Rhodiapolis n'était pas le seul de son espèce. C'est un grand bienfaiteur aussi qu'a fait connaître peu d'années après, on s'en souvient, la fameuse stèle d'Oinoanda relatant la création des Démosthénéia avec l'approbation expresse d'Adrien en 124, car ce Julius Démosthénès, pour lequel je ne puis que renvoyer au commentaire exhaustif de Michael Vorley dans sa publication de 1988, pouvait se flatter lui-même d'avoir rendu les plus grands services à sa patrie comme au koinon lycien tout entier. Bien entendu, pas plus que l'éditeur, je ne songe à faire de ce Démosthénès l'auteur des libéralités attestées à Xanthos, une génération. En effet, sépare les deux hommes, puisque le citoyen romain d'Oinoanda avait commencé sa carrière avant Opramoas et avait atteint l'âge mûr sous Trajan déjà. Mais on peut se demander ce qu'aurait fait Marguerite Yourcenar si elle avait pu savoir que ce personnage était lui aussi arrangé au nombre des premiers de tout l'ethnos lycien, faisant partie de ces hommes connus, des empereurs eux-mêmes, comme le dit l'inscription. Aurait-elle donné la préférence à Julius Démosthénès, qui, la chose est sûre, bénéficiait de la confiance et de l'appui d'Adrien ? Cela me paraît improbable, car le Rhodiapolitain, derrière son mausolée perdu, s'entourait pour elle d'une aura de mystère, alors que Julius Démosthénès, avec ses deux noms trop classiques, avec son concours musical calibré sur les meilleurs modèles de la tradition hellénique, ne l'aurait sans doute guère fait rêver d'Orient. En un mot, pour ce qu'il avait à faire, Opramoas était irremplaçable. Reste un dernier point pour conclure. Quand donc Adrien vint-il en Lycie ? Sur la question, si la question est tout à fait débattue, c'est que les chercheurs travaillant sur la partie occidentale du pays ont eu le bonne raison de dater son passage en l'an 129, quand l'empereur, durant son second voyage en Asie, se dirigea d'Éphèse d'Éphèse vers la Carie, puis la Phrygie, enfin, possiblement la Lycie, spécialement à Patara, où plusieurs inscriptions attestent sa présence et celle de l'impératrice. Telle est la position défendue par Balan à propos d'une dédicace adrianique, qui est là ici à gauche, du Letoon, certainement postérieure à 128. D'autres historiens, comme Halfmann, notamment dans ses Itinera Principum, ont privilégié avec conviction la date de 131, qui ressort effectivement d'inscriptions de Limyra et surtout de Phaselis, ici à droite, à la frontière de la Lycie et de la Pamphylie. Dès lors, c'est seulement à son retour d'Orient, après la mort d'Antinoüs en Égypte, qu'Adrien aurait touché la côte lycienne. Mais, comme le notait naguère Michael Verlet, justement, en traitant de l'inscription agonistique d'Oinoanda, il paraît plus raisonnable de penser que les deux extrémités de la Lycie, ne furent pas touchées au cours d'un seul et même voyage. Venant de l'intérieur des terres depuis Éphèse, Adrien put atteindre la vallée de Xanthos en 129 déjà, en étant accompagné encore du jeune Bithynien lors de son séjour à Patara, la florissante capitale de la province, connue depuis des siècles par son oracle très véridique d'Apollon lycien. C'est privé d'Antinoüs, en revanche, cela est sûr, qu'il arrive à 2 ans plus tard à Limyra, les greniers à blé, Auréa, construits par l'empereur et l'impératrice dans chacune de ces deux cités portuaires, au témoignage d'inscriptions latines, pourraient donc bien ne pas être des réalisations strictement contemporaines. Elles s'inscrivaient du reste dans un vaste programme d'amélioration des conditions d'acheminement du blé égyptien vers la capitale de l'Empire. De Limyra, le couple princier a pu monter vers Rhodiapolis, où l'on sait désormais qu'Adrien et Sabine, on l'a vu, furent honorés d'une statue dans les dernières années du règne, grâce justement à Opramoas. Mais plus vraisemblablement, c'est ce dernier qui se déplaça sur les rivages pour assister à l'épibasis, au débarquement de la cour impériale. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'escale dura plus d'une heure. Sur ce point, Marguerite Yourcenar a manqué un peu de réalisme. Rien n'empêche donc, en fin de compte, de penser qu'en 131, Opramoas ait eu, contrairement à ce qu'on lit dans Mémoire d'Adrien, tout le temps de déployer son luxe habituel. Même si ce propriétaire fortuné est peut-être négociant ou banquier, car son statut ne l'empêchait nullement de se livrer au grand commerce, n'est sans doute rien eu d'un pacha ou d'un nabab. C'était d'abord le citoyen d'une ville où, depuis longtemps déjà, on ne parlait plus que la langue grecque, en vivant selon les usages helléniques, sous des gouverneurs romains, eux-mêmes plus ou moins profondément hellénisés. Je vous remercie.